Réplique, qui sont les nouveaux bien-pensants avec Philippe Solers. Il y a quelques mois, au plus fort de l'affaire Renaud-Camus, cet écrivain accusé d'antisémitisme par la majorité des journalistes et des intellectuels de ce pays, Philippe Solers, publiait dans Le Monde un article intitulé « Les nouveaux bien-pensants ». Les journaux volent, les revues restent. Souhaitant à son texte un destin moins éphémère que l'actualité, Solers l'a republié cet automne en ouverture du numéro 71 de sa revue « L'Infini ». Et l'auteur de Passion fixe a bien fait. Il n'est peut-être pas de thème plus névralgique dans notre culture, ou ce qu'il en reste, que celui de la rectitude, de la correction idéologique. L'homme est un roseau bien-pensant, disait admirablement Jules Renard. Ce n'est pas en effet contre le vide de l'hébétude, mais contre le trop-plein de la bien-pensance, que la pensée doit chaque jour reconquérir ses droits. Reste à savoir à quelle nouvelle norme du jugement, à quelle façon de voir, à quels comportements intellectuels s'applique maintenant cette catégorie. Qui sont, selon vous, les nouveaux bien-pensants, Philippe Solers?
Eh bien, je crois qu'en effet, il y a bien-pensance, comme vous venez en somme de le suggérer, lorsqu'il y a absence de pensée, tout simplement. Et que, dans un monde comme le nôtre, tout en agité de propositions diverses, soumis au flux de la publicité et de la stéréotypie des discours, dans cette confusion-là, on peut voir passer un certain nombre de messages très intéressants, mais qui dévoilent une certaine absence de pensée. Et dès qu'on ne pense plus, eh bien, on va vers la bien-pensance. C'est au fond ce que, à la fin de cet article, j'évoque avec Anna Arendt, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, elle a dit ça de façon très forte, c'est-à-dire que c'est l'absence de pensée qui conduit parfois au mal, et non pas ce qui peut être pris pour une méchanceté intrinsèque, un diabolisme intérieur, une perversion absolue. C'est tout simplement parce qu'on ne pense pas qu'on peut devenir criminel. Alors l'absence de pensée, il faut la repérer, évidemment, partout où elle s'exprime, et elle s'est violemment exprimée au cours de cet épisode qui est déjà lointain, mais qui a connu depuis, et qui connaîtra encore, croyez-moi, des retours, comme par exemple des déclarations que j'ai de nouveau soulignées, la Robe Grenier récente, mettant sur le même plan, de façon très confuse, mais presque sans savoir ce qu'il dit, les petites filles, les chambres à gaz, etc. Il y a cette espèce de chaos, de confusion, où on voit apparaître une bien-pensance chaotique, qui est tout simplement une absence de prise de sérieux quant à la pensée, c'est évident.
Alors, quand même, Philippe Solers, vous dites vous-même que cette affaire Renaud-Camus
est un
symptôme, elle n'est pas tout à fait terminée. Vous citez Alain Robbe-Grillet. Alors, je voudrais immédiatement...
Mais demain, ce sera encore autre
chose.
Oui,
mais justement, je voudrais vous livrer trois remarques sur l'entretien donné par Robbe-Grillet à Livre Hebdo. J'ai lu... dans votre bloc-notes du journal du dimanche, un commentaire très sévère, ce que je peux comprendre, puisque Robbe-Grillet, en effet, dans cet entretien que j'ai lu, s'étonne et s'indigne...
Et fait référence à Renaud-Camus.
Oui, mais justement,
tout en l'appelant Renaud.
Nous dit bien. S'étonne et s'indigne de voir que l'on interdise aujourd'hui deux choses, de nier les chambres à gaz... et d'avouer son amour des petites filles. Il y a dans ce télescopage une obscénité véritablement insupportable. Et vous l'avez souligné, Josiane Savigno l'avait souligné également dans Le Monde, mais vous ne manquez pas, en effet, l'un et l'autre, de constater que, interrogé sur l'affaire Renaud-Camus, il l'appelle Renaud, ce qui vous apparaît, semble-t-il, comme une complicité entre eux deux, et ce qui vous permet presque, au fond, de compromettre Rob Grillet par Renaud Camus et Renaud Camus par Rob Grillet. Or, l'une des choses, une des premières choses que l'on apprend dans Corbeau, le journal de l'affaire que Renaud Camus a publié aux éditions Nouvelles Impressions, eh bien, c'est que Rob Grillet sollicitait de faire, de donner sa signature à une pétition demandant que Renaud Camus puisse se défendre, a refusé très vertement. Et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur vraiment tout ce qui peut les opposer. Deuxième chose que je voudrais dire, au fond, s'il y a bien-pensance, quand on bien-pensance, on se dit c'est la non-pensée et c'est la non-pensée majoritaire. Cela évoque aussi bien ce que Barthes peut dire sur la doxa ou ce qu'Heidegger a pu dire sur la tyrannie du « on ». Quand je ne pense pas, on pense à travers moi. Il se trouve tout de même que dans l'affaire Renaud Camus, disons, vous étiez majoritaire, vous pensiez avec beaucoup de monde, et je me suis retrouvé.
C'est pas vrai, non.
Et je me suis retrouvé assez seul. Bon, peut-être. Alors,
c'est pas tout à fait.
Et puis alors, d'abord, dernière chose, et peut-être pour moi, si vous voulez, la plus importante, puisque paraît-il, dans cette affaire, il s'agissait, si vous voulez, de dénoncer l'antisémitisme, donc de défendre les Juifs. Quelle ne fut pas ma surprise en vous lisant, Philippe Sellers, de constater que j'étais visé par la bien-pensance, mais pourquoi pas? Mais surtout, que je pouvais apparaître, en quelque sorte, comme un représentant de cette France moisie dont vous aviez parlé un an auparavant, cette France qui, d'une certaine manière, ne veut pas vider ses placards, qui est contente de son propre pétainisme. Alors là, je me dis, peut-être que vous pensez que Renaud Camus a tort de s'intéresser trop à l'origine des gens, mais j'aime autant, je suis très mal à l'aise quand celle-ci, si vous voulez, n'a plus aucune importance. De cette France-là, je ne peux pas être le porte-parole pour toutes sortes de raisons biographiques. Je n'en procède pas, je n'en viens pas. Mes grands-parents ont été déportés de France, mon père aussi, il est revenu, pas eux. Il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, d'autres que nécessairement vous savez un peu, et je me dis, moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bulldozer idéologique, cette frénésie, tout d'un coup, une mode impérieuse et aveugle, veut qu'on défende les Juifs, et ce bulldozer se lance, et on écrase tous ceux qui se mettent en travers de sa route, juifs ou pas. Donc le juif que je suis ne peut pas se sentir conforté, il se dit, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-on?
Oui, là, bon, d'abord, vous avez raison de souligner à quel point ceci ne peut pas concerner votre propre histoire. Mais il ne faut pas présenter les choses de façon si simple, je crois, dans la mesure où ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que voilà des propos qui sont édités dans un livre, que, à vrai dire, personne ne remarque. L'éditeur non plus. Bon, il publie. Puis tout à coup, quelqu'un remarque qu'il y a ça. Hein, je crois que c'est Marc Weissmann qui a le premier souligné, qui lui-même a des raisons particulières, probablement, de s'intéresser à ce genre de propos. Et, une fois que c'est remarqué, tout le monde réagit vivement. Le livre est retiré du circuit commercial par l'éditeur, qui va ensuite le rééditer avec des blancs, avec une préface tout à fait extraordinaire, vous vous en souvenez, de justifications très encombrées, enfin bon, passons. C'est tout un déroulement. Là-dessus, une fois que le livre est en quelque sorte visé par le fait qu'il n'a pas été lu, en somme, hein, que tout à coup on découvre ce qui est imprimé, ce qui est passé comme ça entre les lignes, comme s'il s'agissait de rien, etc. Alors c'est à ce moment-là que se lève une pétition pour contre la censure, et signée d'un grand nombre de personnes, et d'ailleurs Renaud Camus les évoque. Et cette pétition rassemble beaucoup de noms. Nous avons eu dans notre bureau, dans notre petite revue trimestrielle, la visite d'un certain nombre de personnes qui sont venues nous proposer de signer un texte, en effet. Et c'était ça qui était étonnant. C'était brusquement de mesurer à quel point ils n'évaluaient pas le problème. C'est ça la bien-pensance. C'est ne pas évaluer de quoi il s'agit au moment où quelque chose est imprimé et dit. Et à ce moment-là, vous prenez la profondeur de la question, c'est-à-dire que c'est effarant. en quelque sorte. C'est donc, là, ça m'a amené à durcir, si vous voulez, ma position, donc à signer une contre-pétition, etc., tout en évaluant à ma façon, de façon très personnelle, la question. C'est-à-dire qu'en 2001, pour Obrier, des propos de ce genre pourraient encore être dits comme si on n'avait pas mesuré la profondeur d'un problème. Et ce problème est tout à fait français, je vous assure. Il n'y a pas de loin à chercher. Nous avons les émotions suscitées par le procès Papon, cette mise en détention, et est-ce qu'on peut laisser ce vieillard en prison, etc. Bon. Et c'est-à-dire un passé qui ne passe pas. Hein, nous pourrions évoquer longuement la période pendant laquelle l'ex-président de la République, François Mitterrand, trouvait qu'après tout Bousquet, etc., etc. On n'en finirait plus, mais c'est intéressant. Donc je reviens toujours à ce qui me préoccupe. C'est-à-dire, cette France-là, que j'ai appelée moisie, et Dieu sait ce que j'ai entendu, alors, à partir de là, comme insultes diverses, que j'avais écrit à l'article Maurassien, elle est bien bonne celle-là, que je serais, en somme, un mauvais Français qui cracherait sur la France. Je me contente de rappeler, simplement, qu'il y a ce que j'appelle des cadavres dans les placards, ou des placards dans les cadavres, c'est-à-dire, entre 40 et 42, quelque chose qui se passe absolument épouvantable sur le sol français, dont je ne me sens nullement responsable, ni même coupable, puisque vous avez évoqué vos origines, puisque ma famille était anglophile et absolument indépendant de toute pression venant de Vichy, je crois que c'est une question très importante, qui va recommencer, vous allez voir, nous en avons encore pour longtemps, et puis qu'il y a un deuxième placard dont on commence à peine à parler, qui est la guerre d'Algérie, qu'on ne voulait pas appeler guerre, mais simplement maintien de la pacification, et puis la torture, et puis vous apprenez maintenant qu'on peut donner à des gens la permission de se souvenir de ce qui s'est passé pendant cette période, et donc c'est très curieux de voir, c'est ça la bien-pensance, la bien-pensance c'est exactement ce que je vais dire, c'est-à-dire vous avez le droit de vous souvenir. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Donc c'est ça qui se passe avec cet épisode où mes meilleurs amis ont été soit tués, soit blessés. Moi-même, j'ai été obligé de passer dans les hôpitaux militaires, etc. Et puis vous avez après un certain nombre d'autres épisodes, passons de 68 par exemple, la façon dont c'est présenté, etc. La bien-pensance, c'est ça. C'est au fond, il ne s'est rien passé de si grave. C'est pas très important. C'est pas fondamental. C'est l'histoire du XXe siècle. Ou alors, d'un autre côté, il s'est passé une chose horrible au XXe siècle, donc le XXe siècle est complètement noir et on va évacuer tout ce qu'il est comme création fondamentale. Voilà en gros comment se situe ma polémique, qui est encore une fois très spécifique de la façon dont je pense tout ça.
Bien, alors je vais essayer de vous répondre. Je comprends que face à certaines formulations, après ce qu'a été le XXe siècle, on pense devoir s'indigner sans autre forme de procès.
Exact. C'est-à-dire, en même temps, ça veut dire être bien pensant.
Bien sûr. Non, cela dit,
s'indigner sans autre forme de procès, ça veut dire être bien pensant. Oui, de même que faire comme si rien ne s'était passé, c'est être bien pensant.
Donc, alors, oui, mais vous voyez, vous allez au-delà. Parce que moi, je voulais, dans un premier temps, essayer de comprendre ceux qui se sont mobilisés, si vous voulez, spontanément contre un auteur qu'il ne connaissait pas, à l'aide des...
Mais n'oubliez pas ceux qui se sont mobilisés spontanément pour
un auteur qu'il connaissait, en demandant simplement qu'il puisse se défendre, parce que n'oubliez pas que le journal Le Monde a refusé de laisser paraître tous les articles en défense de Renaud Camus, dont un article très beau, que je lirai peut-être parce qu'il figure, dans Corbeau, de Jean-Paul Marcheschi. Bien. Donc, il demande cela. Mais on se mobilise, et je comprends dans un premier temps cette mobilisation. J'ai ici un texte de Jean Kélévitch que je trouve assez beau, dans ce très beau livre même, qui est quelque part dans l'inachevé, un dialogue avec Béatrice Berlovitch, et il dit à un moment donné, plutôt le manichéisme que le machiavélisme. Et Béatrice Berlovitch, allant dans le même sens, cite Nisan, « Ayons le cœur d'être grossier, sacrifions l'esprit de finesse. » Pas trop de nuances, pas trop de finesse justement, quand elle débouche sur le confusionnisme. Je peux le comprendre, mais... Ça dépend de quoi il s'agit. Et justement, quand on écrit une pétition en réponse ou quoi que ce soit, et quand en plus dans cette pétition, on traite Renaud Camus 4 fois de criminel, on prend une responsabilité historique, c'est-à-dire qu'on entre nécessairement en résonance avec, si vous voulez, l'activité pétitionnaire inaugurale qu'a été le texte en faveur de Zola, au moment de l'affaire Dreyfus. Et il y a une certaine continuité dreyfusienne dans ce combat. Or, je voudrais vous lire ici, parce que je crois que c'est très éclairant pour ce qui se passe, un texte de Durkheim, précisément répondant à Brunetière. Parce que Brunetière était un anti-dreyfusard tout à fait particulier, c'était un anti-dreyfusard démocrate. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette aristocratie intellectuelle qui se permet de juger au nom de quoi en savent-ils davantage, hein? Un argument qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dès que les intellectuels se manifestent escalités.
Mais je reçois des lettres tous les jours. Voilà. Je vous en ai deux avant l'émission. Demain, j'en aurai trois.
C'est exactement... Réponse de Durkheim.
Constant.
Si donc, ces temps derniers, un certain nombre d'artistes, mais surtout de savants, ont cru devoir refuser leur assentiment à un jugement dont la légalité leur paraissait suspecte, ce n'est pas qu'en qualité de chimiste ou de philologue, de philosophe ou d'historien, ils s'attribuent je ne sais quel privilège spéciaux, et comme un droit de contrôle sur la méthode, de la chose jugée, mais c'est étant hommes, ils entendent exercer leur droit d'homme et retenir par devers eux une affaire qui relève de la seule raison. Il est vrai qu'ils se sont montrés plus jaloux de ce droit que le reste de la société, mais c'est simplement que par suite de leurs habitudes professionnelles, il leur tient plus à cœur, accoutumés par la pratique de la méthode scientifique à réserver leur jugement, tant qu'ils ne sont pas éclairés, il est naturel qu'ils cèdent moins facilement aux entraînements de la foule et au prestige de l'autorité. Phrase admirable, mais c'est là, si vous voulez, à quel point on voit la déchéance actuelle du dreyfusisme, excusez-moi de le dire, puisque le dreyfusisme, c'était le parti du scrupule. Suspendre la nuance, je veux bien, sacrifier le scrupule, non. Et ça est donc, ceux qui se réclamaient du dreyfusisme, eh bien, en fait, ont utilisé la manipulation des citations tronquées, ont utilisé la rumeur dans un texte de Poirot-Delpech intitulé très solennellement « Zahor ». Eh bien, il est dit, entre guillemets, que Renaud Camus trouve qu'il y a trop de juifs, ce qu'il n'a jamais dit. On a utilisé aussi une stratégie extrêmement violente, qui est celle du soupçon, ce que Barthes appelait admirablement, vous vous en souvenez peut-être dans le plaisir du texte, les figures de système. Hein, c'est-à-dire, il dit qu'il n'est pas antisémite. Oui. Cette dénégation est un aveu. Il fait bonne figure, ça veut dire qu'il se pavane. Donc de toute façon,
en vous écoutant,
tout est retenu contre lui.
En vous écoutant, nos auditeurs vont avoir l'impression qu'on a cherché des choses qui n'existaient pas là où elles n'avaient pas lieu d'exister. Alors que, bon, on n'a pas le temps probablement, il faudrait aller un peu au cœur du problème, comme vous venez d'essayer de le faire auparavant. C'est-à-dire qu'il faudrait rappeler alors les passages qui sont quand même extrêmement problématiques et qui ont été relevés, qui ont donné lieu à toute cette polémique. Et qui sont de nos jours un symptôme, encore une fois, très grave de ce que peut penser un écrivain, un esthète de nos jours, qui dit ça comme s'il disait quelque chose de tout à fait banal, etc. C'est dans la mesure, et je crois que je termine mon article comme ça, c'est dans la mesure où ça n'est pas vraiment répréhensible, ça n'est pas du racisme vociférant comme on en a vu depuis Drummond, et là-dessus vous savez qu'il y a des livres qui remettent la question un jour, c'est-à-dire celui de Philippe Almeras par exemple à propos de Céline. Donc qu'est-ce qui est venu à travers cette tradition française qui fait la France vive de Drummond et qui ensuite a déferlé pardon. Non, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que justement c'est des propos qu'il avait, et un peu comme dans l'interview de Robbe-Brigay d'ailleurs, c'est des propos qui n'ont l'air de rien, qui ont l'air comme ça, qui passeraient en quelque sorte presque entre les lignes et sous le manteau, et puis il s'agirait simplement de le faire remarquer. Donc, là, c'est ça que j'appelle le danger. C'est quelque chose qui serait parfaitement banal, et finalement assez peu intéressant, mais qui est là de façon latente, et qui fait peut-être beaucoup plus de mal encore que quelque chose qui serait affiché, militant, qui d'ailleurs serait censuré aussi. Parce que ça n'échapperait pas probablement à l'œil vigilant d'un éditeur d'une émission de radio ou de télévision.
Oui, mais
ça serait vite réglé. Je connais des gens qui seraient tout à fait ravis de pouvoir tenir des propos aussi violents. Alors, ce que je mesure dans cette affaire, c'est encore une fois, et c'est ça que j'appelle la bien-pensance, des gens qui ne se rendent pas compte quand disent un certain nombre de choses qui peuvent passer comme ça, comme si ça coulait sous les ponts, ça peut comme si, en un sens, ça va dans la direction de préjugés qui ne demandent qu'à ressurgir à un moment ou à un autre. On fait simplement là le lit d'une sorte de bien-pensance, et cette bien-pensance, eh bien, elle sera probablement fondée toujours sur des rejets, des passions anciennes qui ne demandent qu'à ressurgir, c'est tout.
Oui, mais Philippe Solers, quand on, si vous voulez, émet une accusation aussi terrible, justement à la fin de ce siècle, que celle d'antisémitisme, il faut savoir de quoi l'on parle, et il faut faire attention. Alors je vais vous lire un passage de Renaud Camus, un extrait du discours de Flarand, un discours sur l'art contemporain. Vous savez qu'à Puyeux, il a longtemps organisé des expositions d'art contemporain. L'art contemporain, d'ailleurs, tenant dans sa vie une place qui fait déjà de lui toute autre chose que l'espèce de porte-parole de la bourgeoisie moisie, rancie et maréchaliste qu'on a voulu voir en lui. Mais voici ce qu'il écrit. Il faut remonter au désastre. Ce n'est pas bien difficile, car le désastre a nombre de visages, et le temps passerait-il sur lui que pourtant il ne serait jamais loin. Mais il faut remonter au plus grand des désastres. Il faut remonter à la question d'Adorno, que vous me pardonnerez de rappeler encore une fois, alors qu'elle est si souvent convoquée, sur la possibilité d'écrire encore des poèmes après Auschwitz. Elle méritait d'être élargie, elle l'a amplement été par Adorno lui-même ou par Maurice Blanchot. Citation de Blanchot, « Retirement et non pas développement, tel serait l'art, à la manière du dieu d'Isaac Luria, qui ne crée qu'en s'excluant. Ainsi parle l'écriture du désastre. Si la poésie est inadmissible ou pu paraître telle après les camps de la mort, c'est que toute parole est passée par la bouche des bourreaux. C'est que toute idée de la beauté classique ou toute idée classique de la beauté fut aussi leur idée et aussi leur beauté. C'est qu'ils ont interprété mieux que quiconque, attendez, non seulement Wagner ou Richard Strauss, mais Mozart et Schubert. Ouais. C'est qu'ils ont porté au nu non seulement Nietzsche ou Carl Schmitt, mais Rilke et Goethe lui-même et jusqu'à Hölderlin. C'est que notre humanité, voici l'inhabitable pour la pensée et ce qui la rend impensable, est la même que la leur. C'est que le gardien des camps était d'excellents pères de famille, de parfaits camarades et maris comme les autres. Boltanski nous les montre à la taverne, ou bien en famille, tout souriant près de l'arbre de Noël, le petit dernier dans les bras. C'est que le sens a construit les camps, aligné vers eux les voies ferrées, trouvé la formule meurtrière des gardes, justifié l'injustifiable, et pendant ce temps, composé des poèmes, écrit des opéras, organisé des expositions d'art. C'est que tout sens est compromis, que toute image est souillée, que toute beauté est salie, que tout être a honte de se montrer.
Oui,
tout ça est très discutable, bien entendu. Mais ce qui n'est pas discutable, c'est la sincérité de cette.
C'est possible. C'est possible. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il s'agit d'un écrivain français qui parle de l'Allemagne, alors que moi, ce que j'attends d'un écrivain français, qu'il soit Renaud Camus, Alain Rebrier ou d'autres, y compris moi-même, c'est qu'il parle de l'endroit d'où il parle cette langue-là et de son histoire. Et que par conséquent, je trouve très intéressant que un écrivain exprime sa biographie, ses intérêts, en parlant de l'histoire de son pays. Et c'est la raison pour laquelle on peut en effet faire des morceaux de bravoure rhétorique sur les nazis ou autres, etc. C'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de savoir ce qui s'est passé exactement en France, pourquoi la Troisième République a voté les pleins pouvoirs à Pétain, pourquoi il y a eu ces 4 années qui auraient été rayées de notre histoire, quelle a été l'étendue de cette infection, de cette intoxication, d'où elle vient, comment elle a pu se produire en France, en français, comment la collaboration a-t-elle pu être possible, pourquoi j'ai l'impression, moi venant d'où je viens, d'être un Français atypique dans une France qui n'a que trop été collaborationniste de Vichy ou de Moscou, comme j'aime dire souvent. Et donc ce sont les questions essentielles. Et c'est là-dessus qu'on attend. Et alors c'est la raison pour laquelle quand Renaud Camus, avec cette belle déclaration, peut écrire que à France Culture, à Panorama, il y a trop de villes dans
les. Non, il ne l'a pas écrit. Non, enfin, il ne l'a pas écrit.
Non, enfin,
il ne l'a pas écrit.
Il y a. Que dans le service, etc., etc. On ne va pas reciter les phrases.
Non,
peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de l'histoire de son pays. Voilà ce que je ressens.
Bon, c'est ce que vous ressentez. Cela étant, vous avez parlé tout à l'heure de Hannah Arendt, et moi, effectivement, j'ai beaucoup pensé à elle tout au long de cette affaire. Parce que dans un premier temps, je me suis dit, vu de certains textes et d'abord de certains extraits, qu'il y avait en effet un aspect un peu maurassien ou barréciste chez Renaud Camus. J'ai constaté que tel n'était pas le cas, et peu à peu, toutes les catégories que j'utilisais, j'étais obligé de les suspendre parce que les choses étaient beaucoup plus compliquées. Or, Hannah Arendt, quand elle s'interroge sur l'absence de pensée, quand elle nous dit cette chose très étrange, finalement, l'absence de pensée a à avoir affaire avec... pour s'affaire avec le mal. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, dans une conversation avec Hans Jonas, elle dit, bon, pour ce qui est du totalitarisme, on ne sait jamais comment quelqu'un va agir. On a la surprise de sa vie. Elle dit, cependant, on peut constater que des gens qui sont attachés à des valeurs, à un système de valeurs, à des vieilles valeurs, sont très souvent les plus prompts à s'engager au service d'un nouveau système de valeurs pourvu qu'on leur en fournisse un, si vous voulez. Et donc, elle dit la nécessité de penser sans banister, sans garde-fou, sans s'accrocher à la rampe. Et elle dit d'où cette espèce de profession de foi socratique. Socrate, il est là pour tout déconstruire, c'est-à-dire pour nous obliger à juger, certes, mais à juger de la singularité des cas. Or, je vois autour de cette question d'antisémitisme et à travers Renaud Camus se mettre en place un système de valeurs a priori commode et confortable, binaire qui plus est, donc en l'occurrence, il est la victime, et là je me dis avec Hannah Arendt, alors on n'a rien appris, rien compris, on a simplement changé de système, et dans ce nouveau système, eh bien, on peut procéder sans scrupule à la pire des manipulations, au lynchage, parce qu'on est très content, justement, de cette clarification binaire des choses. Et quand un écrivain en fait les frais, comme il en a fait les frais, et au nom, précisément, de la mode noire, moi, je veux, premièrement, y aller voir, et quand je constate l'écart majestueux qu'il y a entre ce qu'il est et ce qu'on dit de lui, oui, je le défends. Souvenez-vous, une dernière chose, Philippe Solers, puisque vous écrivez de temps en temps dans le journal du dimanche, il ne vous a pas échappé qu'ils font des classements, ça ne vous concerne pas, je ne veux pas du tout vous compromettre par ce genre de choses, mais bien entendu, mais ils font les classements des personnalités préférées des Français. Et Zidane, cet été, a doublé l'abbé Pierre, moment particulièrement important,
l'abbé Pierre va repasser en
oui,
tête, vous verrez.
Oui, moment salué.
Puisque vous avez parlé de Barthes, il faut relire le portrait de l'abbé Pierre dans Mythologie.
Absolument, absolument. Il y a beaucoup de choses qu'on lit dans Mythologie, mais pas ça.
Ah, si ce n'est pas de la bien-pensance, c'est ça. Qu'est-ce que c'est?
Alors, mais la bien-pensance, là, elle s'en est donnée à cœur joie, sous la plume, hélas, de Georges Semprin, de la compassion à la passion. Il dit, bon, on est avec Zidane plutôt dans un monde de la passion que dans le monde de la compassion, pourquoi pas? Contre la France de Renaud Camus, les gens qui ont répondu aux questions de l'IFOP ont choisi une France de l'intégration et de l'ouverture au monde. L'ouverture au monde par Zidane contre la France de Renaud Camus.
Nous nous éloignons de Solers.
Non. Eh bien, je reviens à Renaud Camus et peut-être à Solers et sans doute à Hannah Arendt et à la nécessité justement et du scrupule et de l'accueil de la singularité des personnes. Renaud Camus, qui est un disciple de Barthes, je ne dis pas ça pour le mettre sous l'autorité de Barthes. Barthes n'est pas là, donc nul ne sait quelle position il aurait prise, mais à un moment donné, dans un livre intitulé...
avait des amis très divers, voilà. dont moi.
Donc, bien sûr, mais je ne vous le retire pas. Non, je ne dis pas ça encore une fois.
Et d'ailleurs, je me suis senti en quelque sorte responsable de la mémoire de Barthes par mon intervention.
Bon, eh bien, moi, je dis simplement que Renaud Camus s'est livré à un exercice pratiqué par Barthes dans son Roland Barthes par lui-même. Vous savez, il y a un fragment qui s'appelle « J'aime, je n'aime pas ».
Oui,
cela n'a aucune importance pour personne. Cela apparemment n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire « Mon corps n'est pas le même que le vôtre ». Alors, il y a tous les « J'aime » de Renaud Camus. Et c'est intéressant de voir justement cette France répressive, cette France bourgeoise, maréchaliste, etc. Il aime Racine, certes, il aime Manet, mais il aime Rome, les couleurs de Rome, Virginia Woolf, Sangria, Antonio Machado, Leopardi, Recanati, Tibulle, Frédéric Chopin, Borges, Luc, La Fontaine sans doute, mais aussi Ginsberg, Whitman, Cavafy, Janáček, Szymanowski, Granados, Locateur du Beauwolf, et également Jabès. Donc on a là affaire à un cosmopolitisme absolument réel. Nous avons affaire dans la France de Zidane à un rétrécissement au football. le football planétarisé, ce n'est pas l'ouverture au monde, même si j'aime le football. Et tout d'un coup, Renaud Camus devient une espèce de repoussoir commode de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vois, moi, là, à l'œuvre, justement, ce que Barthes détestait, la doxa, le stéréotype, la pensée binaire. Quand les juifs sont victimes de la pensée binaire, je suis malheureux. Mais quand ils en sont les prétextes et les bénéficiaires, je ne suis pas plus heureux d'un pouce. Je suis tout aussi triste.
Vous auriez dû citer en même temps qu'Anna Arendt ce passage fameux de George Orwell qui dit voilà. En effet, on peut changer de disque et que de toute façon le disque récite toujours de la même façon.
Je vous le dois ce passage. Voilà. Je vais le citer parce que je l'ai noté pour l'émission et je l'ai lu d'abord chez vous. D'après tout ce que je sais, il se peut que lorsque ce livre, il s'agit de La ferme des animaux, sera publié, mon jugement sur l'Union soviétique deviendra l'opinion généralement admise. Mais à quoi cela servira-t-il? Le remplacement d'une orthodoxie par une autre n'est pas nécessairement un progrès. Le véritable ennemi, c'est l'esprit réduit à l'état de gramophone, et cela reste vrai que l'on soit d'accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. C'est ce que j'ai vu à l'œuvre, c'est ce que je vois à l'œuvre dans ce philosémitisme qui, d'ailleurs, ne se gêne pas pour me passer sur le corps.
Il est très évident que une certaine forme de philosémitisme presque spontané, je dirais même pavlovien, soit le fait de personnes qui auraient été antisémites en 1940 ou 42, et que par conséquent, ça ne doit pas nous étonner, outre mesure, parce que, en effet, nous aurions là simplement le retournement du disque sur le plateau, hein, de le compact, ou le compact suivant, à partir du moment que ça tourne d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle ces questions de langage sont si essentielles, et que pour savoir où il y a bien pensance et où il y a pensée, ou début de pensée, ou commencement de pensée, puisque selon la formule célèbre de Heidegger, il est fort probable que nous ne pensons pas encore, du moins que nous devrions nous demander toujours si nous sommes en train de penser, au lieu de croire que nous pensons, parce qu'il n'est pas évident que nous soyons capables vraiment de penser. Mais sur des sujets aussi importants, c'est la question du style que je voudrais évoquer, qui est là tout à fait importante. Et là, je crois que c'est une question de goût, fondamentalement. On peut dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Le problème n'est pas d'avoir l'air non plus cosmopolite, ce qui pourrait être aussi une bien-pensance comme une autre en multipliant.
Faut quand même.
Non, c'est
quand
pas
même accepté.
Nous n'avons pas à être nationaliste. Nous n'avons pas à être internationaliste. Nous n'avons pas à être cosmopolite.
Mais
nous
n'avons à être. Il n'y a aucune connotation de ce type puisque ce n'est pas une réponse.
Non, d'accord.
C'est simplement qu'est-ce que j'aime.
Voilà.
Qu'est-ce que j'aime. Quel corps je suis.
Eh bien, très bien. En effet, c'est une question de corps. Eh bien, excusez-moi, de même, au contraire du corps de Barthes que j'ai bien connu, sur le plan évidemment littéraire et de pensée, pas autrement, ça va de soi. Il me semble que le corps de Renaud Camus, dans ce qu'il a exprimé là, et dans ce qu'il exprime dans Corbeau, où d'ailleurs il s'en prend physiquement à mon apparence, en disant le gros solaire, avec ses prêtes-bandes, etc., j'y retrouve comme par hasard, même chez quelqu'un qui se défend, une tendance à utiliser des fantasmes physiques à l'encontre d'un adversaire supposé, idéologique, etc. Donc il y a un ton qui ne trompe pas. Il y a une oreille à avoir par rapport à la façon dont les gens écrivent. Écoutez. Non, attendez, je continue une seconde.
Oui, continuez.
C'est
continuez.
Une question, en effet, de langage. Et ça, j'y suis très sensible. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté dans cet article sur le côté un peu banal, un peu conformiste, même, de cette affaire, et en ne craignant pas de mettre en avant, n'est-ce pas, des vociférateurs célèbres, comme Louis-Ferdinand Céline. Vous voyez que ma position, elle, là, n'a rien de zilanesque ou d'abbé Pierrick. Donc c'est une position, en effet, je paradoxale, mais certainement pas orthodoxale.
Non, peut-être pas orthodoxale, mais cette position paradoxale, vous l'avez défendue dans un cadre, si vous voulez, dans le cadre d'une campagne extrêmement violente où tout le monde ne partageait pas vos idées, mais tout le monde pensait que cet homme, cet écrivain, était nul et non avenu, et tout le monde le pensait sans l'avoir lu. Vous aviez, vous, sur d'autres, l'avantage de le connaître un peu, l'avantage aussi de l'avoir déjà publié dans tel quel, ou d'avoir souhaité le faire, et Vous pouvez vous récrier devant, disons, une notation physique. Il faut quand même vous dire que ce qu'il a subi est assez effrayant, et ça ressort de Corbeau. À un moment donné, il dit « De l'ignominie dont on m'abreuve, je ne me relèverai jamais. Je suis un écrivain enterré. Pour l'instant, c'est l'envie de dormir qui l'emporte en moi. Je ferme sur moi le sommeil, comme on laisserait tomber la dalle du tombeau. Et je me souviens malgré tout, si vous voulez. » Il faut... Parce que vous participez avec Plenel,
non, moi, je peux vous
avec Plenel et Bernard-Henri Lévy, non, à une émission sur LCI, vous êtes trois à dire la même chose. Est-ce que vous n'avez pas pu vous dire, ça va pas, on peut pas, on n'a pas le droit, puisqu'il y a des gens assez fous pour le défendre, qui ne sont suspects de rien, peut-être que les choses sont plus compliquées, on ne va pas, si vous voulez, se livrer à un jeu de surenchère où des écrivains donnent leur caution à une campagne intellectuelle, vous le savez vous-même, vous le regrettez tout le temps, personne ne lit. Les intellectuels sont là, personne ne lit. Mais vous venez comme écrivain dire, de toute façon, vous avez raison de ne pas le lire, c'est nul, c'est absolument nul. Donc là, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez que cette affaire est quand même couronnée de manière extraordinaire par le livre paru chez Folio Actuel l'année 2000 dans le monde. Je l'ai reçu hier, juste avant cette émission. Donc ce sont les principaux événements en France et à l'étranger. Je me suis dit, comment ils formulent l'affaire, peut-être que je pourrais le mettre dans mon chapeau. Il n'y a pas d'affaire. Je regarde l'index, il n'y a pas Renaud Camus. Donc le Monde participe, escalité, à une campagne extrêmement violente, prend parti, refuse de publier à peu près tous les textes, sauf les miens ou ceux de Sylvain Lagazinski, légèrement en faveur de Renaud Camus. Une fois que la campagne est faite, l'individu n'existe plus. Non, on va quand même pas lui faire l'honneur d'exister, on va pas lui faire la publicité du déshonneur, en quelque sorte. Là, je me dis, mais dans quel monde vit-on? Demande un peu plus de scrupules et d'humanité.
D'accord, absolument. Alors, la prochaine émission, je vous amènerai mon dossier. Et vous verrez de quoi je suis traité à tout bout de champ dans certains journaux, dans certaines officines, des natives. Je vous assure qu'on a de quoi faire et vous verrez comment je passe.
Plus.
Je passe en effet pour quelqu'un qui aurait fait telle ou telle déclaration très minimale et comme si je n'avais jamais rien écrit de ma vie. Donc là-dessus, croyez-moi, je suis tout à fait sensible à ce genre de choses. Il n'empêche je crois que votre plaidoyer sincère serait mieux venu sur un écrivain plus important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça n'est pas très intéressant ce qui s'est passé, sauf comme symptôme. Et le symptôme est d'abord dans le fait qu'un livre a pu être publié comportant certains passages tout à fait problématiques, sans avoir été lu, et publié d'ailleurs dans d'autres livres antérieurs, etc. Et qu'il a fallu simplement qu'il y ait une remarque pour que tout le monde, tout à coup, se précipite sur tel passage, n'est-ce pas? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que, en réalité, il n'y aurait pas dû y avoir cette espèce de confusion totale. Libération, en effet, n'aurait pas fait cette double page sur Renaud Camus publiant ce livre dans lequel il y avait ces passages, sans les signaler, bien entendu. Il n'y aurait peut-être pas eu, en effet, toute cette histoire. Donc, là, c'est un problème, en effet, profond, qui vient d'une certaine confusion, désinvolture à l'égard de la publication et du langage, puisqu'il faut bien être sensible au langage quand on publie des livres. Moi, en général, quand je publie quelque chose, j'ai lu les manuscrits dont je m'occupe.
Voilà. Alors, soyons sensibles au langage, et avant d'élargir le propos à certains aspects de votre propre thématique, je ne veux pas faire comme s'il n'y avait pas litige, ou faire comme si tout le monde avait en tête les phrases qui ont valu cette campagne à Renaud Camus. Une phrase a été citée dans la déclaration des autres nombreux de la France de souche que vous avez signée avec Serge Klarsfeld, avec Claude Lanzmann, avec Jean-Pierre Vernant
et Jacques Derrida.
Et Jacques Derrida et d'autres. Je ne suis pas sûr qu'il y ait parmi, dans cette liste, un seul, peut-être vous partiellement, mais un seul lecteur de Renaud Camus, d'autant plus que la citation sur les lois de l'hospitalité est tronquée. Lorsque cette citation est rétablie dans son intégralité, il dit, voilà, j'aurais voulu qu'on applique les lois de l'hospitalité, seulement ce n'est pas possible, les autres ont peut-être trop nombreux, ils cessèrent de se considérer comme des autres, ils commencèrent à se considérer eux-mêmes comme des autres, c'est-à-dire comme étant chez eux, jouant sur l'amphibologie du mot eutre.
Oui, mais déjà,
ce qu'il veut dire,
mais déjà,
attendez, les autres furent trop nombreux et resteraient trop longtemps pour que soient encore applicables les lois de l'hospitalité, objet de mes vœux anciens. Elles impliquaient qu'il y ait une distinction de rôle entre qui recevait et qui était reçu. Une telle distinction ne peut plus avoir cours, et les anciens hôtes ne sont plus aujourd'hui que des commensaux ordinaires, parmi leurs anciens invités, à égalité avec eux. Je ne peux pas commenter plus longuement cette phrase ici, elle n'est pas criminelle. De même, quand il parle de la voix ancienne de la longue expérience française, il dit bien, si cette voix ancienne que je déplore de n'entendre plus qu'à peine était seule à se faire entendre, ce serait l'abomination de la désolation.
Voulez-vous votre...
Je suis pour tout ce qui tombe, pour tout ce qui se perd, pour tout ce qui va disparaître et que j'essaie de sauver. Voilà qui n'a rien, qui n'a absolument rien de criminel, et voilà en plus qui est un trajet singulier, peut-être scrabreux, peut-être choquant, mais qui ne fait pas de lui le symbole qu'on a voulu y voir. Il a été le bouc émissaire d'une animité heureuse de cette France résistante de la 25e heure. Et de cela, et à cela, effectivement, je ne veux pas être complice. À cela, je ne peux pas apporter ma voix.
J'entends bien. Pour ce qui est de ces phrases avec ce mot d'hôte, là vraiment, vous voyez, c'est toujours le langage qui m'interpelle. Et franchement, faire de la France un pays hospitalier sous Vichy, éventuellement.
C'est pas ce qu'il dit.
Non, mais en fait, j'entends ça.
Dire, c'est pas ce qu'il dit.
Mais moi, j'entends ça.
Mais oui, mais.
Excusez-moi, mais c'est moi, j'entends ça. N'est-ce pas, je suis de Bordeaux, ma famille est. J'ai vécu cette guerre dans une famille qui était de l'autre côté. Enfin, qui n'était pas. Vous comprenez? J'entends cette apologie de bizarre. Enfin, vous imaginez ce que c'est que cette France hospitalière, n'est-ce pas, qui a quand même raflé au Veldi. Alors, ça ne va pas. Dans le langage même.
Mais c'est dans
le choix des mots.
Oui, mais...
Il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors,
et ça, je m'excuse d'essayer de vous le faire entendre, mais là...
Non, vous ne me faites rien entendre de plus, si vous voulez. Je pense avoir une bonne oreille.
De façon d'écrire.
Je pense avoir une très bonne oreille. Un assez bon flair, je ne sais pas s'il faut utiliser une métaphore olfactive de l'oreille, je pense savoir ce qu'il en est et le dégoût de Renaud Camus pour tout ce qu'a été le pétainisme, la collaboration, etc.
Il l'empêche
d'une violence inouïe. Ouais. Et l'hospitalité française, pour moi, je m'excuse, ça signifie quelque chose. Je suis arrivé, je suis né français, de parents étrangers, de cette hospitalité, je l'ai connue à travers l'école. D'où, effectivement, mon attachement que vous pouvez juger un peu ringard à l'école républicaine, parce que vous dites, dans l'article sur les nouveaux bien-pensants, école, famille, nation, c'était certainement pas le souci majeur de Artaud, de Bataille et Guy de Peur, qui n'ont pas voulu, en plus, être candidats à l'Académie française, alors que Renaud Camus l'a voulu. L'école, pour en ce siècle, pour les Juifs, c'était extraordinaire. C'était effectivement une France hospitalière et qui a cessé de l'être maintenant précisément que chacun peut épanouir son identité dans cette gigantesque auberge espagnole. Donc le mot d'hospitalité ne me choque pas. La défense de l'école non plus. Quant à l'Académie française, quand même, soyons raisonnables, aujourd'hui, ce n'est pas l'establishment. L'establishment, il n'est pas là. Il est dans certains journaux, il n'est pas à l'Académie française. Et se présenter à l'Académie française, je trouve que ça demande presque un certain un cran, et je voudrais vous rappeler qu'il a été boulé en plus. Donc, mais si vous voulez, j'avais un souci de pouvoir et un souci d'entrer dans l'establishment, je frapperai pas Conti. Je sais où je frapperai. Je sais que je n'y frapperai jamais, mais je sais où je frapperai.
Moi je dis que vous aurez certainement, avec cette déclaration enflammée, une proposition de l'Académie française et que vous serez très, très mal pensant, justement, en acceptant d'y entrer éventuellement.
Sur le
il faut toujours parler avec un brin d'ironie.
Oui.
Attendez, le problème, vous avez évoqué cette hospitalité française et l'école laïque républicaine, bien. que je connais un peu, et étant donné que j'ai été assez précoce pour m'intéresser à un certain nombre de choses, moi je vous dirais que j'ai une expérience contraire à la vôtre. Eh bien, et donc, on peut en parler.
Calmement. Mais sans l'école, moi j'étais foutu.
Oui, peut-être.
Mes parents, ce n'était... Eh bien, il n'y avait pas de culture chez mes parents, il y avait une bonne volonté culturelle.
Eh bien, moi, si j'avais dû me débrouiller avec ce que l'école m'a transmis, je ne serais pas qui je suis. J'étais obligé de tout apprendre par moi-même.
Oui, vous avez un peu une famille quand même.
Oui, mais quelque chose de cet ordre. Il n'était pas forcément culturel, qu'il ne lisait pas les livres qu'elle avait dans sa bibliothèque.
Oui, mais ils étaient.
Mais je les aurais trouvés, vous comprenez. Je me serais débrouillé pour les trouver, les livres.
Mais si, je suis pas un sujet autofondé. J'ai une dette. J'ai une dette, et ça, c'était le meilleur de la France.
Alors, attendez, la dette, votre concept d'ingratitude m'est connu. Vous n'allez pas m'accuser, moi, d'être ingrat, parce que vous devez prendre un certain nombre de mes livres, encore une fois, pour voir à quel point je rends hommage d'une façon qui n'est pas du tout conventionnelle, et qui n'est pas du tout académique, justement, à tout ce que la France a pu produire de chefs-d'œuvre, de Saint-Simon à Proust, et à qui vous voudrez. La question n'est pas là. Mais je vous dirais que la question est plutôt la suivante. C'est que je n'ai pas et vu, mais entendu, à part quelques professeurs très rares, parce qu'on faisait lire Montaigne quand même à l'école, mais je n'ai pas eu cette sensation de défense, du fondement de ce que pouvait être une culture française. Donc je peux vous faire, moi, dissident de cette école, une apologie indéfinie de la culture française, de sa grandeur, de Voltaire à qui vous voulez. Mais j'ai été obligé de l'apprendre tout seul. Ce que j'ai vu en revanche, c'est en effet un tassement extraordinaire, un effondrement qui n'a fait que se poursuivre d'ailleurs, dont on accuse les 68 arbres qui n'étaient là bien avant. Bien avant. Et c'est ça la question. Donc là, nous entrons dans une problématique qui serait celle de savoir ce qui s'est passé au XXe siècle sur le plan positif, alors que je n'en entends jamais parler vraiment dans l'information de façon satisfaisante.
Bien sûr. Alors,
qui sont Proust, qui sont Picasso, qui sont Joyce, qui sont Stravinsky, qui sont les grands créateurs du XXe siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Et avec Barthes, justement, nous avions l'intention, il est mort assez trop tôt, d'un projet qui aurait été une encyclopédie, justement, une nouvelle encyclopédie. Le besoin s'en fait sentir, puisque l'ignorance augmente, l'analphabétisme aussi, l'illettrisme est galopant, vous le soulignez à juste titre, mais tout ça vient de bien loin, vous savez, ça ne date pas de hier ou d'avant-hier.
Là-dessus, nous pourrions nous entendre. J'ai repris cette petite pique sur l'école, parce que dans école, famille, nation, dans la manière que vous accolez ces trois termes, j'entends, vous voyez, j'ai un peu d'oreille de temps en temps, travail, famille, patrie, et je trouvais
que... Oui, c'était exprès.
Oui, mais justement, je trouvais que c'était un peu gonflé. Donc,
oui, c'est ça. Gonflé.
C'est gonflé.
Mais ça part de mon expérience.
Oui, d'accord.
Vous parlez de la vôtre, moi je parle de la
vôtre. Non, oui, mais faites aussi... Je vous demande pas. Si quand même, je vous demande de faire attention à la mienne, puisque précisément c'est un peu en mon nom.
Différente.
Non, c'est un peu en mon nom que vous vous élevez.
Pas seulement.
Non, pas seulement en bien, mais enfin,
excusez-moi.
Pas au sens.
Je ne
vous
considère
personnel.
Pas du tout comme une.
Pas au sens
étrangère au nom de quoi je pourrais.
Non, non. À partir du moment où les Juifs sont visés dans un texte et où on défend les Juifs, c'est en mon nom.
On défend les Juifs. C'est pas seulement les Juifs qu'on défend.
Non, je me sens pas très bien défendu.
C'est une autre perception de l'histoire, de la culture fondamentale, etc. Non, non, et donc, d'une certaine façon, des Juifs, bien sûr.
Mais
pourquoi? Parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas revenir.
Il s'est passé un certain nombre de choses. Je pense que sur les grands auteurs du XXe siècle, de Wittgenstein à Celan, à Celan, pardon, Renaud Camus.
Dont on va publier bientôt la correspondance.
Renaud Camus a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, je crois qu'il
le dit.
Mais il les dit.
C'est pas grave.
Lisons-le.
Oui.
Alors, je vous dis.
Lisons tout ce qu'il y a. Lisons tout le monde.
Lisons tout le monde et surtout, ne nous trompons pas de combat. Et quand nous attaquons, si vous voulez, quand nous prétendons attaquer la doxa, le pouvoir, la force, que ce soit vraiment la doxa, le pouvoir et la force. Vous, Philippe Solers, vous combattez la société du spectacle. Mais quelquefois, on a le sentiment que c'est un concept tellement extérieur à tout que ça vous permet, par ailleurs, de n'avoir pas de véritable conflit avec la presse. Or, l'une des leçons que moi j'ai tirées de l'affaire Renaud Camus, c'est qu'entre le travail de l'écrivain et même celui de l'intellectuel et la presse, il y avait une guerre sans merci. Ce qu'il dit très bien dans Corbeau, et je lirai très brièvement un passage, « Il faut bien le savoir, on ne peut mener contre la presse une guerre médiatique. Si essaie-t-on, on se trouve à peu près dans la situation d'une armée qui n'aurait d'autre munition que celle que l'ennemi lui envoie pour donner l'illusion qu'il y a une vraie guerre, à la loyale. Il serait trop peu dire que l'adversaire a le choix des armes, il en dispose seul. Il dispose seul du choix du terrain, il dispose seul du choix du moment, il dispose entièrement de vous. Vous n'êtes qu'une marionnette entre ses mains, qu'il revêt du costume ou de l'uniforme de son choix, et qu'il agite un peu de temps en temps pour donner au public l'illusion que son pouvoir n'est pas absolu. Tout livre doit hurler à son lecteur « Ne compte pour me connaître que sur toi. Ne me juge qu'avec tes propres yeux et ton propre esprit. Cherche-moi par toi-même et cherche par toi-même les livres qui me suivront, comme ceux qui m'ont précédé. N'oublie pas que je ne vis que par toi et que tout est fait pour nous séparer. Ne compte pas sur le journalisme pour te parler de moi. À mon sujet, ne fais confiance ni à son silence, ni à sa parole. » Et je pense qu'il a raison, de souligner cette guerre entre la littérature et l'édition, on ne sait pas très bien où elle est, disons, entre la littérature et le journalisme. Et je me demande, quelquefois on a envie de dire, mais si vous êtes à ce point contre la société du spectacle, dites aux journalistes et au journalisme les vérités qu'il leur faudrait entendre. Et c'est aussi une des leçons pour moi de cette affaire Renaud Camus, que l'incroyable muflerie des journalistes qui jugent de tout, sans rien lire, sans rien comprendre, avec une ignorance heureuse, et en se disant que là, ils sont dans le bien. Le bien, il n'est jamais donné. Penser, c'est discerner à chaque fois le beau du lait, le bien du mal. Quand on croit qu'il est donné, alors c'est là que le mal recommence.
Oui, mais là, nous nous séparons sur la question suivante. C'est que cette attaque contre la presse, contre les journalistes, contre les médias, ça, nous entendons ça depuis fort longtemps, venant des différents côtés, c'est le ton que je n'adopte, moi, jamais. Pourquoi ? Parce qu'il m'arrive d'intervenir dans la presse, et je note que là, vous avez parlé d'un article en revue, et qui est vraiment le millième de mes activités, si je peux dire. Et donc, je crois que c'est très faux de s'enfermer dans ce dilemme, et au contraire, quand on fait une œuvre, quand on écrit des livres qui trouvent, on ne sait pas trop comment, d'ailleurs c'est ça qui est un peu extraordinaire, mais qui trouvent quand même leur public et leurs amateurs, on doit continuer, et puis c'est tout. Et puis, de temps en temps, intervenir en effet dans la presse ou dans les médias pour signaler que quelque chose continue à se faire, à se penser, etc. Vous ne m'accuserez pas, je suppose, de propager l'ignorance dans les articles.
Non, mais pas du tout. Alors, on ne refuse pas d'écrire dans la presse, bon, c'est l'espace public. D'accord. C'est pas alors, ce que je dis, c'est que de temps en temps, on voudrait que votre critique de la société du spectacle s'incarne, parce que, en disant les marchés financiers, la société du spectacle, en les pointant du doigt, d'une certaine manière, vous ne pointez personne. Et il y a des moments où il faudrait que ce soit quelqu'un. Parce que si vous pointez l'Académie française, moi je veux bien, mais l'établissement, c'est
spécialement la pauvre Académie française qui a bien du mal à renouveler ses clients, vous comprenez, c'est pas le problème. Il n'empêche que on ne doit pas, je crois, rentrer dans cette politique de façon exagérée, et qu'il faut quand même être sensible à une chose qui me paraît tout à fait importante, c'est que ce n'est pas le journalisme, ce n'est pas la presse, c'est un système beaucoup plus complexe, beaucoup plus universel, d'illettrisme galopant, d'alphabétisme. Donc, si on adopte la position du maudit, du marginal, qui se plaint de tout, et qui... il faut aller se battre tranquillement et propager ce qu'on pense.
Eh bien, c'est ce que nous avons essayé de faire, en tout cas ensemble aujourd'hui, Philippe Solaire. Je vous remercie de vous être prêté à cette discussion très franche. Je rappelle que vous venez de publier chez Descaux de Brouwer, La Divine Comédie,
Dante est un personnage autrement intéressant. Vous savez, dans les journalistes, ils n'ont que faire, d'ailleurs.
Mais justement,
la malédiction de ce pauvre Camus, c'est en effet d'avoir trop intéressé les journalistes.
Je ne dirais pas du tout les choses comme cela. Ce livre est publié chez Descaux de Brouwer, c'est une discussion avec Benoît Chantre. J'espère que les auditeurs me feront assez confiance, non pas pour prendre ce que j'ai dit pour argent comptant, mais pour aller voir de même, pour lire éventuellement L'éloge du paraître de Renaud Camus chez Paul, ou le dernier tome de son journal La Salle des Pierres chez Fayard, mais surtout pour entendre son mot dans l'affaire, Renaud Camus Corbeau, journal 9 avril 9 juillet 2000. C'est publié aux éditions Nouvelles Impressions. Si ce livre ne se trouve pas chez votre libraire, Corbeau, eh bien, vous le commandez.
Et n'oubliez pas Dante, qui est un auteur très important.
Et n'oubliez pas Dante. Et n'oubliez pas Dante, mais ce n'était pas mon intention, et il n'y avait aucune alternative dans ce que je disais. Aucune alternative de cet ordre, Renaud Camus, et qui plus est, un italienisant. C'était donc Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Yael Mandelbaum. La réalisation était assurée par Dominique Briffaut. La semaine prochaine, nous ne quitterons pas tout à fait votre sujet. Ce n'était pas le mien aujourd'hui, mais votre sujet, le fascisme et la France. Mes invités seront Serge Bernstein et Zef Sternel.